Bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 19h, vous écoutez Sine Qua Non.
Sine Qua Non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi, tous les deux mois, à 19h, sur le 93.9 FM.
Bonsoir et bienvenue. Nous vous retrouvons ce soir pour le 11e épisode de Sine Qua Non, consacré une fois de plus à un cinéaste notable, Seijun Suzuki. Sine Qua Non, c'est l'émission de cinéma de Radio Campus Paris qui vous fait découvrir un mois sur deux l'œuvre d'une ou d'un cinéaste à l'occasion d'une rétrospective ayant eu lieu récemment ou étant en cours à Paris et en Ile-de-France. Et en effet, Seijun Suzuki est mise à l'honneur avec une rétrospective de son œuvre en deux temps, le 11 mars dernier avec la ressortie de Carmen de Kawashi sur une copie restaurée, suivie le 25 mars par une rétrospective de 7 films, certains sur des copies restaurées. 8 films donc, à retrouver au cinéma Le Reflet Médicis, l'une des 3 salles qui fait la renommée cinéphile de la rue Champollion dans le Quartier Latin.
Cinéaste passe-partout à ses débuts, trublion de studios adulé par la jeunesse et rejeté par la production, cinéaste indépendant, inclassable, Suzuki a une carrière et une œuvre pour le moins atypique qui ont valu sur le long terme un large consensus autour de lui. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Julien Cévéon dans son article consacré à Seijun Suzuki dans le dictionnaire des cinéastes japonais. Dirigé d'ailleurs par un grand cinéphile du cinéma japonais qui s'appelle Pascal Alex Vincent. Donc Seijun Suzuki, c'est un cinéaste très prolifique du fait notamment de son emploi en tant que réalisateur dans le célèbre studio Nikatsu où la productivité était de mise et nous y reviendrons. Il a longtemps été méconnu du public occidental car ses films n'étaient pas ou peu distribués. Ses films rencontrent aujourd'hui un succès critique et populaire auprès du public français et européen seulement à partir des années 90, à l'occasion de la sortie de plusieurs de ses œuvres les plus marquantes, comme Le Vagabond de Tokyo, La Barrière de Chair ou encore La Marque du Tueur. D'abord, figure influente de ce qu'on appelle la nouvelle vague japonaise, il inspire par exemple Nagisa Oshima ou Shoei Mamura et d'autres grands noms comme ça. Suzuki, il a eu une influence remarquable sur le cinéma mondial et nombreux de cinéastes le citent et lui rendent hommage à travers leurs films. Parmi eux, on peut citer Wong Kar-wai, Tarantino, Takeshi Kitano et plein d'autres. Mais il n'est pas qu'admiré par ses pairs, Suzuki il est reconnu et célébré aujourd'hui dans le monde entier par la critique et le public pour son cinéma pop, provocateur et foisonnant.
Nous sommes David et Juliette et pour ce beau programme, nous sommes accompagnés ce soir par Théophile.
Bonsoir.
Bonsoir Théophile. Et donc, David, peux-tu nous parler un peu plus du sujet de ta célèbre chronique de ce soir ?
C'est vrai que je fais une chronique ce soir aussi, Juliette. Ma chronique va traiter d'activités illégales, notamment qui se déroulent dans des banques.
Vous le constatez, c'est encore un très beau programme ce soir et il nous tarde. Alors, n'attendons plus, Sine Qua Non, 11e épisode, c'est parti !
Sine Qua Non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi, tous les deux mois, à 19h, sur le 93.9 FM.
Et David, peux-tu nous en dire un peu plus sur la biographie de Seijun Suzuki ?
Oui, Juliette, je peux t'en dire plus. Son vrai nom, c'est Seitaro Suzuki. Il est né en 1923 à Tokyo et il est mort en 2017 dans cette même ville. Pour quelques éléments biographiques, je peux vous dire qu'il a été enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et il revient marquer cette expérience. Et à son retour de la guerre, du coup, il réussit l'examen d'entrée comme assistant réalisateur au sein du studio Shochiku, après avoir échoué à celui d'entrée à l'université. Ensuite, il rejoint un autre studio, la Nikatsu, dont on vous a déjà parlé, en 1954, et il signe un contrat en tant que réalisateur 2 ans plus tard.
Mais attends, comment ça il a passé un concours d'entrée pour devenir assistant réalisateur ?
Bah, excellente question. Pour ça, on va devoir faire un petit aparté sur le système des studios japonais qui nous permettra de mieux comprendre la trajectoire de la carrière de Suzuki. Qui est très caractéristique, en fait, pour le coup, des carrières des réalisateurs de cette époque-là. Juliette ?
Et donc, sur le même modèle qu'Hollywood, les studios japonais sont des entreprises qui concentrent tous les métiers nécessaires à la fabrication d'un film. Autre particularité, les studios japonais fonctionnent comme des entreprises traditionnelles, avec une hiérarchie établie et des possibilités d'évolution selon l'ancienneté.
En effet, il y a pas mal de studios célèbres comme la Nikkatsu, comme qu'on mentionnait, la Toho, la Shochiku, et leur âge d'or, en fait, au Japon comme ailleurs dans le monde, les studios et le cinéma connaissent un âge d'or à partir de l'après-guerre et dans les années 50. Si je peux rajouter quelque chose dessus aussi, c'est que pour en revenir à Suzuki, le studio dans lequel il va s'illustrer, c'était, comme on le disait, la Nikkatsu, le plus ancien des studios, fondé en 1912.
Oui. Suzuki réalise une douzaine de films pour la Nikkatsu à partir de 1956, donc au moment où il signe son contrat en tant que réalisateur. Mais il est certes réalisateur des films qu'il réalise, mais il reste soumis à la réglementation stricte du studio et il ne peut donc pas jouir d'une totale liberté de création. Il n'est pas scénariste, par exemple, il n'est pas monteur de ses films, jusqu'à La Voix sans ombre qu'il réalise en 58. On lui impose par ailleurs ses scénarios et d'ailleurs on lui impose aussi la catégorie des films qu'il doit réaliser, c'est-à-dire les films de série B. Ce sont des films de divertissement et de genre, avec des budgets minuscules et des temps de montage et de tournage tout aussi petits. Ce qui fait que Suzuki enchaîne donc les tournages et réalise en moyenne, en cette période-là, 3,5 films par an. Mais le studio et la direction se rendent compte de sa qualité de travail de metteur en scène notamment et lui accordent de plus en plus de liberté en lui confiant des projets plus valorisants comme Détective Bureau 2-3, sorti en 1963 avec la star maison du studio de la Nikkatsu, Joshi Shido, qui incarne donc le protagoniste. Cette liberté va grandissant et les années qui suivent ont été celles de l'affirmation de son style si particulier. Ses films prennent aussi un ancrage plus marqué du côté sociopolitique, et ce qui ne va pas s'en plaire au public adolescent et jeune adulte de l'époque où infuse une atmosphère de rébellion contre la société.
Je pourrais ajouter que le style de Suzuki s'affirme progressivement au sein des genres dominants à la Nikkatsu, que sont les films de gangsters, donc les films qu'on appelle Yakuza Eiga, et le film érotique également, à savoir Pinku Eiga. On peut citer dans le genre Détective Bureau 2-3 et La Jeunesse de la Bête en 63. Et ce sont des films qui sont un petit peu différents, dans le sens où, y en a, comme tu le disais Juliette, ils font beaucoup de films à la chaîne à cette époque-là, mais ceux de Suzuki se démarquent. Et ils représentent en fait à l'intérieur de la production industrielle une forme de renouvellement et de modernité. Par exemple, juste un exemple comme ça, La Jeunesse de la Bête, elle regorge de scènes violentes et tordues, et le film il est rempli de signes et de signaux au service de stimulation alors à la mode, comme beaucoup d'effets de style, de la musique pop, très influencée par les Américains, des split screens très 60s, quoi, et une grande stylisation formelle, avec l'usage de couleurs, de formats différents d'images.
Oui, en effet. Mais alors, peut-être parlons-en encore plus de son style, et quoi de mieux que de traiter du premier film qui fera l'objet d'un focus, de notre premier focus de ce soir, La vie d'un tatoué, sorti en 1965.
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi, tous les deux mois, à 19h, sur le 93.9 FM.
ヤクザだ。人殺しなんか朝飯前のヤクザだ。そいつら一体何をやらかしたんです。もう東京でな、ヤクザ同士の揉め事があって、殺し合って散らかったんだ。けん、今おめえが引っ返したら何も顔めちゃめちゃになるに違えねえ。世の中にはできることとできねえことがある。そりゃ未練っていうもんだぜ。こればっかり兄さんの差し抜けだよ。俺はおめえにミスミス完璧組の網ん中に飛び込ませるような。
Et on va pouvoir commencer par vous raconter un peu ce que raconte ce film, le synopsis. En fait, on est au début du XXe siècle et on suit un protagoniste qui s'appelle Tetsu. Il est trahi par, c'est un yakuza impulsif. Il est trahi par un membre de son clan. Il est pris dans un guet-apens avec son frère cadet, le doux et artiste Kenji. Donc le jeune frère tue quelqu'un et sauve in extremis le grand frère. Les deux prennent la fuite. Ils se réfugient près d'une mine où ils se font bientôt engager comme ouvriers. Les deux frères ensuite tombent amoureux de la femme du patron et de la copine de la femme du patron, et on suit leurs petites aventures dans la mine et avec leurs différentes amantes.
Alors la première chose que que je tiens à dire sur le film, c'est que La vie d'un tatoué, donc, c'est un film typique d'un sous-genre du film de Yakuza qui s'appelle le Ninkyo Eiga. Un sous-genre qui a vu le jour dans les années 60. On traduit ce terme par film de Yakuza en costume, donc qui se caractérise par une histoire située dans le Japon du milieu du 19e siècle au début du 20e siècle, avec des personnages donc en costume d'époque, souvent en kimono, et un ou plusieurs protagonistes qui sont confrontés à des dilemmes moraux, souvent entre devoirs et sentiments personnels. Donc, en l'occurrence, dans La vie d'un tatoué, le devoir, ce sera plutôt le devoir fraternel, et les sentiments personnels, ce sera les sentiments que les deux protagonistes ressentent pour ces deux femmes. Mais David, peux-tu me dire ce que tu as pensé de ce film ?
Oui, je peux te dire plein de trucs intéressants dessus, Juliette. La première chose, c'est que, comme tu le dis, le film s'inscrit dans un genre. C'est un des trois films sûrement qu'il a fait cette année-là, en 65 probablement, Suzuki.
Probablement, oui.
Le film est en couleur, les couleurs sont magnifiques, et il est en cinémascope, à savoir un format très très large, pour justement profiter de la spécificité de la salle de cinéma par rapport à la télévision qui arrive également dans les foyers japonais. Mais au-delà du coup de l'exploration du genre, à savoir que c'est un film comme on en fait beaucoup à cette époque-là dans les années 60, Suzuki, lui, il utilise ce genre pour faire ses expérimentations formelles. Et en ça, il va au-delà de la tradition et il accède à une forme de modernité. Par exemple, on le voit par la forme, mais aussi par les thèmes que traite le film. Il y a notamment un personnage qui m'a marqué, qui est le contremaître ou le chef d'équipe des ouvriers de la mine, qui est, semble-t-il, de manière assez claire, communiste ou en tout cas révolutionnaire. Et en fait, les deux frères Yakuza, etc., vont se retrouver confrontés à la réalité de l'époque, à savoir la réalité politique, les luttes sociales, les patrons contre les ouvriers. Mmh. Et en ça, c'est vraiment un film des années 60, moderne et révolutionnaire, puisque c'est pas forcément comme ça que ça aurait été traité 10 ans plus tôt dans le cinéma japonais.
Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais en même temps, ça me fait penser à quelque chose, moi, qui m'a aussi marqué dans le film, c'est que... Il garde aussi une sorte de tradition dans la forme, enfin dans l'amitié qu'entretiennent tous ces hommes, et il y a vraiment une solidarité masculine un peu à l'ancienne en fait, avec ce groupe d'ouvriers qui se comportent, enfin ils sont tous amis, ils sont tous copains, mais c'est vraiment qui aime bien châtie bien, ils se bagarrent, enfin ils se charrient sur les femmes, sur souvent la femme du patron ou d'autres femmes, mais pourtant ils se soutiennent aussi mutuellement. Et un élément qui m'avait particulièrement marqué dans le film, c'est le moment en fait où Tetsu et donc son frère arrivent, et Tetsu réussit à se faire embaucher parce qu'il tient physiquement tête au contremaître, puisqu'il se bat littéralement avec lui. Et il lui prouve par là qu'il est donc digne de confiance en le battant, et qu'il sera utile sur le chantier puisqu'il est physiquement apte, mais aussi qu'il n'est pas, ce que dit le contremaître, un va-nu-pied de la ville.
Oui, c'est complètement vrai. Du coup, en effet, c'est pas complètement un film nouveau. Ce sont des thèmes qu'on reconnaît et qu'on a vu aussi en fait dans des cinémas d'autres nationalités, par ailleurs en plus. Hein. Mais il me semble que tout de même, Suzuki, il est révolutionnaire pour d'autres aspects aussi, à savoir la façon dont il a de traiter son sujet, formellement par exemple.
Oui, même si... formellement, à part en fait la scène de fin, mmh, qui est extraordinaire et on y reviendra, mais je trouve que c'est le film qui est peut-être le moins expérimental de ces films-là de Suzuki, où il commence à avoir de la liberté créative et ça se voit, et je trouve que là le film reste quand même fidèle à une forme assez classique, une narration qui est très facile à suivre. On verra que c'est pas forcément toujours ça avec Suzuki.
En effet.
Mais qu'en tout cas, ça suit très bien, qu'il y a ce motif en fait très classique, typique de ce sous-genre-là aussi, de questionnements moraux et d'amour fraternel. Et on y retrouve aussi un autre motif du film de Yakuza plus classique, et même du film de mafia dans le cinéma mondial, on va dire. C'est qu'une fois qu'on est devenu Yakuza, on est devenu mafieux, en fait, ça nous poursuit. Tetsu, il est poursuivi par ce passé-là, et même s'il fuit, il va se réfugier avec des ouvriers dans la campagne, il va toujours être rattrapé par ses anciens ennemis ou même ses alliés, et que la conclusion un petit peu fataliste, même complètement fataliste, c'est que pour se sortir du milieu des hors-la-loi, soit il faut tuer tout le monde, ou bien réussir à s'enfuir vraiment très très loin. Mais en tout cas, il y a ce truc-là qui résonne beaucoup avec des films qu'on a l'habitude de voir, nous, spectateurs contemporains.
Mais oui, ce que tu dis, en fait, là, ce que tu me racontes, j'ai l'impression que tu me parles d'un film américain des années 50 avec Humphrey Bogart qui essaie de se réfugier dans les montagnes et de quitter pour de bon le milieu de la pègre ou de la mafia. Mais en fait, ça aussi, du coup, c'est une influence occidentale que Suzuki reprend, je pense. Il a vu ces films-là dans sa jeunesse,
oui,
dans l'immédiat après-guerre, influencé par... Il y a eu l'occupation américaine au Japon, les films américains sont venus chez eux, il a envie de prendre le meilleur de ce qu'il a vu et de le réutiliser dans ses films, quoi.
Oui, c'est probable.
Il y a autre chose qui t'a plu, Juliette, dans le film ?
Bah du coup, on en parlait, oui, c'est vrai, la scène de fin. Cette scène de fin, donc une scène finale qui est le seul moment vraiment expérimental en termes de forme, même s'il y a quand même des motifs récurrents dans le film. Il y a un motif de l'eau qui revient beaucoup, il y a beaucoup d'eau qui s'écoule, il y a plusieurs scènes, ils sont à côté d'une rivière, donc c'est un peu normal, mais plusieurs scènes dans l'eau aussi. Enfin, le format cinémascope fait que quand même la nature est très belle, et c'est d'ailleurs, anecdote, un des seuls films que Suzuki tourne en décor réel.
Ok.
Avec, il y a aussi Le Vagabond de Tokyo, mais c'est tellement stylisé qu'on a l'impression que c'est pas le cas, bref. Mais pour en revenir à la scène finale, donc c'est une scène d'affrontement, et on passe les détails, mais donc Tetsu, notre protagoniste, affronte plein de yakuza, et c'est dans une maison traditionnelle japonaise, donc avec des panneaux coulissants en papier, je pense, qui coulissent. Et en fait, ces panneaux, il les sépare pour évoluer dans des pièces toutes plus vides les unes que les autres avec des tatamis, et les panneaux sont de couleurs très marquées. Donc ils sont d'abord bleus, puis jaunes, puis verts, et il avance comme ça, comme dans un miroir infini, et ensuite on est en plan séquence et la caméra fait un travelling latéral et on se retrouve dans le noir. Les seules lumières qu'on voit, c'est les sabres qui illuminent la pièce. Puis on revient et c'est une scène dantesque de combat où Tetsu réussit à battre tous ses ennemis malgré le fait qu'il soit assailli de toutes parts, et il évolue dans un espace qui est totalement irréel, et là on sort justement de cette narration très classique pour être dans un décor vraiment qui fait carton-pâte, mais qui en fait un élément esthétique très intéressant.
Je suis complètement d'accord, quand tu parles de carton-pâte, en fait il y a une dimension cartoonesque en fait aux scènes d'action chez Suzuki, l'humour aussi tu me diras d'ailleurs, dans la façon de jouer, mais aussi du coup dans ces scènes d'action qui sont assez impressionnantes, même plus vrai que vrai, bigger than life comme disent les Américains. J'ai envie de revenir sur la séquence dont tu parles avec les volets en papier de couleur qui est tellement magnifique, comme tu dis, je veux juste le répéter tellement c'est beau. Il ouvre en premier plan des volets et derrière, 3 mètres plus loin peut-être, il y a les mêmes volets de la même couleur qui va ouvrir aussi, et il s'enfonce comme ça dans la profondeur. Donc il y a une forme de point de fuite, il est lui-même le point de fuite de notre œil, et il ouvre les espaces de l'écran. L'image qui n'était que superficielle ou que de premier plan devient multiplan entre guillemets, et ça c'est très très beau. Et puis tu parlais des couleurs aussi, Juliette, ça m'a fait un sacré effet esthétique aussi. Il y a un personnage dans cette séquence finale qui meurt, et au moment où ce personnage meurt, d'un coup se teinte d'un rouge complètement irréel le pavé d'abord du sol, mais pas d'un rouge sang, c'est de la lumière, on voit que c'est des projecteurs qui envoient de la lumière sur le sol, et le ciel entier devient rouge. Et où qu'on soit pendant la séquence, que ce soit en intérieur, on voit dans les coins de fenêtre, on voit que le ciel est tout rouge, où qu'on soit, et ainsi de suite. Ça c'est un très bel effet.
Il le réutilise d'ailleurs après, la scène de combat se poursuit, cette scène finale, à l'extérieur, avec donc un dernier combat symbolique, avec un homme important, bref. Et comme rappel des panneaux bleus, on est à l'extérieur, il pleut des cordes, et la lumière est bleue, et il y a des flashs d'éclairs qui sont tout bleus, donc ça fait que la pluie, on a l'impression que la pluie devient toute bleue, et ça résonne avec le bleu des panneaux, quoi.
Tout à fait. C'est vrai que du coup, on voit bien que ce film nous a vachement plu, à toi comme à moi.
Ouais, c'était vraiment très très beau. Et d'ailleurs, c'est cette formule un peu de la scène finale, la scène finale un peu en apogée, en fait, et scène finale d'apogée stylistique, c'est une formule qui réutilise Suzuki dans ses autres films, notamment dans Le Vagabond de Tokyo, qui est un de ses plus connus. et dont on va écouter tout de suite le thème, qui est donc une chanson qui revient comme un leitmotiv dans tout le film.
Vous venez d'écouter Le Vagabond de Tokyo, de et par Hajime Kaburagi, le compositeur de cette chanson culte du film de Seijun Suzuki, Le Vagabond de Tokyo. C'était un instant de pop japonaise très 60s entre film noir et balade mélancolique.
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi, tous les deux mois, à 19h, sur le 93.9 FM.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM et vous écoutez Sine qua non. Ce soir, on vous parle de l'œuvre de Seijun Suzuki et après la vie d'un tatoué, c'est à la marque du tueur que nous consacrons notre deuxième focus.
Thank you.
La marque du tueur marquera à la fois le sommet de son travail à la Nikkatsu et son renvoi de la compagnie. La Nikkatsu retire le film très rapidement des écrans et, peu de temps après, décide de renvoyer le réalisateur à cause de ses débordements filmiques. Écrit toujours Julien Cévéon dans le dictionnaire des cinéastes japonais. David, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le synopsis de ce film, si tu l'as compris ?
Oh là là, tu me pousses, tu me pièges là, Juliette, c'est un petit peu compliqué. Bon, le film s'appelle La marque du tueur, donc il s'agit d'un tueur. Il s'appelle Goro Hanada et il est joué par, rappelez-moi le nom de l'acteur ?
Yoshishido, donc la star de la Nikkatsu.
Voilà, c'est ça. Donc Goro Hanada, joué par Yoshishido, la star de la Nikkatsu, c'est un tueur à gages qui est classé numéro 3 dans une hiérarchie criminelle absurde et implacable. Il est obsédé par la performance et la reconnaissance, et à un moment au début du film, il commet une erreur dérisoire qui le fait chuter et il devient une cible à éliminer pour son propre milieu. Donc il est traqué par ses propres donneurs d'ordre et en parallèle, il est fasciné par une femme liée au tueur numéro 1, puisque je vous l'ai peut-être déjà dit, il s'appelle numéro 3. Donc Hanada, le tueur, s'enfonce dans un univers stylisé, paranoïaque et cruel, où la violence tourne à vide. Donc maintenant, moi je vous le dis comme ça, ça a l'air à peu près clair. Bon, en réalité, c'est pas si simple. Moi en le voyant, j'ai pas exactement compris, forcément compris ça. On comprend du coup qu'il y a en effet ce tueur numéro 3 qui veut tuer les numéros 1, 2 et tous les autres, de manière un petit peu nihiliste, tellement on ne saisit pas pourquoi tuer tous les gens de son milieu. Et puis en fait le film aussi est surtout très déstructuré et pas forcément chronologique. En cela c'est peut-être vraiment un film des années 60 si on pourrait en reparler, mais c'est-à-dire que chaque séquence s'articule autour de son interaction avec un personnage, à savoir soit d'autres tueurs, soit sa compagne, soit son amante aussi. Mmh. Et il y a une forme de progression qui n'est pas linéaire, quoi. Chaque scène progresse, puis à chaque nouvelle séquence, du coup, on se retrouve à repartir peut-être de zéro, on ne sait pas où on en est dans l'histoire. Et du coup, ça rend parfois la compréhension un petit peu compliquée.
Oui, bah totalement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense, je suis sûre, je l'ai moins aimé ce film-là que La vie d'un tatoué. Je trouve qu'en plus, il y a une gradation dans le dynamitage en fait de la narration dans ce film, puisqu'au début je trouve que c'est encore assez cohérent. Enfin, on suit donc ce personnage de tueur à qui on donne des missions d'aller tuer des gens, voilà, et on comprend qu'il y a cette hiérarchie, il y a le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1 on l'a jamais vu, et on comprend à peu près où ça va. Et je pense après 25 minutes, là, on commence effectivement à avoir ce patchwork, ces associations de scènes avec cette chronologie qu'on n'arrive plus du tout à suivre. Et en fait, on a l'impression que le scénario de base devient en fait un prétexte à cet endroit du film et jusqu'à la fin, juste à expérimenter formellement. Et quand on parle d'expérimentation formelle, je pense que la plus saillante, c'est peut-être les surimpressions sur l'image. Enfin, on a l'image, on a l'acteur, la tête de l'acteur, et il y a des surimpressions de dessins. Donc, ça fait vraiment dessins plaqués sur une image d'une personne réelle. Donc, c'est des papillons, des oiseaux et des traits donc, qui rappellent la pluie, qui est aussi un motif récurrent du film. Et à cet endroit-là, on est vraiment sur clairement de l'expérimental, quoi. Ça nous perd assez fort.
Oui, en fait, le film, il m'a rappelé, je pense que toi aussi, t'as rappelé les films de la Nouvelle Vague française, précisément ceux de Godard, moi, ouais. Personnellement, par exemple, Alphaville, d'une, pour le noir et blanc, mais aussi pour la... comme on le dit justement, la narration déstructurée, le montage qu'on ne peut pas forcément saisir. Et en fait, je suis persuadé que, voilà, pareil, Suzuki, il a vu ces films français de la Nouvelle Vague française pour vouloir les refaire à sa sauce.
On imagine.
C'est pour ça d'ailleurs que ces expérimentations visuelles étaient, comme on l'a dit, mal vues par les studios. Et là, on a l'impression que c'est l'exemple ultime de l'expérimentation ultime qu'il veut faire. À savoir que le film devient, en termes de narration, presque une coquille vide. Enfin, il ne s'intéresse plus à son scénario. Il veut juste nous rendre intéressants d'une autre manière par ses expérimentations et par ses trucs et ses astuces, son film. Donc, comme tu le disais, les surimpressions, l'omniprésence de la musique jazzy, les montages alternés, les split screens, etc.
Le jeu aussi, parfois, enfin, même le jeu des actrices, et son jeu à lui est quand même assez neutre, enfin, quasiment presque inexpressif à des endroits, mais à d'autres, complètement inversé. Et les interactions, notamment avec son amante, enfin, c'est une femme qui poursuit, en fait, qui se refuse à lui pendant tout le film. Leurs interactions, elles sont toujours à grands cris, enfin, il y a toujours un surjeu qui rend aussi la narration difficile à suivre, et les personnages d'autant plus difficile de se projeter sur eux, parce qu'en fait déjà on comprend pas trop les événements qui leur arrivent, et en plus on a du mal à avoir de l'empathie pour leurs émotions, et c'est presque comme si au fur et à mesure du film ils perdaient leur profondeur et que Suzuki les avait aplatis pour juste y placer ses expérimentations formelles, et du coup ça en fait vraiment un objet de cinéma au sens propre, où on voit de l'image, on voit de la création, mais on a du mal à raccrocher à une histoire, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de dynamitage. J'ai pensé à une métaphore sur son cinéma et sur son rapport au studio, à savoir que son cinéma dans les années 60, il est contraint par le carcan des studios, mm-hmm. qu'il accepte peut-être, hein, parce qu'il fait 3 films par an, qu'on lui donne des scénarios, etc. Mais il est tellement contraint qu'il est comme dans une cocotte minute, qu'à chaque film qu'il fait, il le fait selon comme il en aurait envie, mais il est toujours menacé par les studios. Attention, ce sera peut-être le dernier, parce que là, tu commences à faire n'importe quoi en termes d'expérimentation visuelle et narrative. Que là, c'est ce dernier film qu'il a fait pour la Nikkatsu en 67, sauf erreur.
Oui.
C'est la bouilloire ou la cocotte minute qui explose, quoi. Et ce film est complètement explosé à la manière de sa carrière, qui va du coup s'exploser à partir de là, quoi.
Oui, exactement. Peut-être j'aurais envie de revenir sur un élément quand même d'expérimentation formelle, mais qui là, je trouve, réussi dans le film. Donc c'est plutôt au début, au moment où on raccroche encore assez vite, assez bien les wagons. Mais c'est aussi un peu un prétexte à expérimentation, mais là c'est vraiment juste visuel. C'est un catalogue des méthodes d'assassinat que déploie Goro Hanada, et il y en a plusieurs, et elles sont toutes plus jubilatoires à voir les unes que les autres. Et par exemple, il y en a une où il place son fusil à travers un briquet géant d'une pub qui s'ouvre et qui se referme, et un autre où il place son fusil dans un tuyau de canalisation d'un lavabo, donc il tue un dentiste à travers ce tuyau de canalisation. Et si vous avez vu Ghost Dog de Jim Jarmusch, il lui rend directement hommage dans ce film-là. Donc je trouve que il y a des endroits quand même intéressants du film, et on n'est pas juste, on se sent pas juste comme un imbécile face à un film dont on saisit pas le code secret, enfin dont on n'a pas les clés. Il y a quand même des endroits de un peu de plaisir. C'est quand même pas une souffrance non plus de voir ce film.
Oui, t'as raison, Juliette, ça va quand même. D'autant que le film reste quand même fait dans le c'est le grand écart, hein, mais dans le cadre du studio. Donc il a son cahier des charges. Il faut qu'il mette des yakuza, il faut qu'il mette des gens qui meurent, il faut des scènes d'action, et il faut aussi les scènes avec des femmes et des scènes de sexe et d'érotisme, des scènes d'érotisme plus ou moins soft, de gens où ils sont nus, où ils couchent ensemble, dans la douche. Enfin, je vous épargne les détails, mais ça, c'est un goût que commence à avoir le public japonais à partir de ce moment-là, dans les années 60. C'est cette provocation aussi érotique et sexuelle, quoi, et dans laquelle s'engouffre pleinement Suzuki, à la fois par son goût pour le sujet, mais aussi parce que c'est les studios qui aiment et veulent faire ça.
Oui, on pourrait se demander aussi s'il n'y a pas une petite influence des James Bond, parce qu'il y a cette figure du tueur à gages qui a une libido assez prononcée et qui a donc une petite amie, une petite amie, on va dire, établie. Et il y a cette femme qui poursuit, mais là, du coup, dynamitage encore, on pourrait dire, parce que cette femme qui poursuit tout le long du film, en fait, elle lui échappe et elle lui résiste. Et à cet endroit-là, c'est le critique Mathieu Macheret qui parlait d'un rapport avec le mépris de Jean-Luc Godard, où on a ces scènes où ils se retrouvent tous les deux, où Goro Hanada la supplie de vouloir faire l'amour avec lui, et elle se refuse à lui et le méprise, et elle tente même de le tuer, et ça se passe toujours dans l'appartement de Goro Hanada, qui est complètement dépouillé, qui a l'air d'être vraiment aussi un décor très carton-pâte, et qui m'a fait penser au mépris après que Mathieu Macheret l'ait dit C'est vrai que ça faisait sens.
Oui, et je, malheureusement, la comparaison avec Godard pour Suzuki ne lui fait pas complètement à mon avis. Parce que, en fait, on a remarqué dans les films qu'on a vus, et pas que dans celui-là, ils ont une dimension, comme on le disait, cartoonesque, un peu parodique. Et je trouve du coup que ça fait des expériences visuelles intéressantes, mais ce que veut raconter le film, les émotions peut-être profondes qu'il voudrait nous transmettre, ne fonctionnent pas autant que dans Le Mépris de Godard, qui veut parler de grandes choses sérieuses aussi, quoi. Et ça, c'est peut-être dommage, je ne sais pas. En tout cas, c'est le projet de Suzuki qui est autre que celui de Godard. Et du coup, ça devient... Enfin, c'est ludique, c'est rigolo. Mais c'est aussi un petit peu cynique, nihiliste. Enfin voilà, on retrouve le fatalisme dont on parlait qui le caractérise. Il n'y a pas de profondeur psychologique ou symbolique stable. Enfin, le tueur, il a un caractère que moi, j'ai pas réussi forcément à comprendre, hein, le personnage principal.
Et elle non plus, au final. Oui. Enfin, elle est une sorte de femme fatale, mais en fait, on ne sait pas trop parce qu'elle est aussi très, très nihiliste et même suicidaire.
Oui.
Elle s'entoure de papillons morts. Enfin, c'est très presque morbide quand on voit ces scènes-là. C'est assez glauque et du coup, leur relation aussi est assez glauque. Enfin, on a du mal à se projeter au-delà de l'image et de la créativité qui est déployée. Mais sinon, enfin, le film nous résiste vraiment, je trouve.
Complètement. Et ça. Aussi, à titre personnel au moins, de par le jeu des acteurs, pour moi, que j'ai vu dans d'autres films de genre japonais où ils sont pas dans la mesure, on va dire.
Oui.
Enfin, ça dépend. Mais on parle très fort, on pleure très fort, on crie très fort. Il y a une forme de... c'est satirique ou peut-être parodique, justement. Oui. Mais je sais pas pourquoi ils le font comme ça. Mais ce film-là, du coup, la marque du tueur, il a cette dimension presque parodique aussi et comique que du film, enfin de la parodie du film de gangster, quoi. D'ailleurs je crois que tu as vu Carmen de Kawashi,
oui,
qui du même Suzuki, et pareil, de ce que moi je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai entendu, c'est un film un peu parodique.
Oui, Carmen de Kawashi, comme le titre l'indique, c'est une parodie du Carmen de Bizet et du Carmen de Mérimée, donc ça s'inspire du personnage de Carmen. Et c'est une Carmen qui essaye, donc elle, c'est une jeune femme qui sort de sa campagne et qui essaye de s'en sortir à la ville. Donc la ville en question, c'est Osaka, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et elle essaye de s'en sortir en devenant hôtesse dans un bar, comme ça se faisait à l'époque. Et en fait, elle se retrouve face à la prédation des hommes, entre autres, et il y a beaucoup de scènes un peu érotiques soft aussi, mais je trouve que c'est aussi un film un peu au rythme plus facile à suivre, mais un peu trop rythmé justement et un peu épuisant. Et pareil, il y a un côté scénette où en fait on enchaîne des scènes où on est dans un bar et puis il se passe des choses vraiment avec du surjeu, des danses exagérées. Puis dans un appartement, un échange aussi tout à fait exagéré avec un homme et Carmen. Enfin, et du coup, c'est un film que moi, j'ai pas adoré non plus parce que j'avais l'impression de voir un truc assez parodique, même qui va au-delà du théâtral, quoi.
Je vois, oui. En fait, j'ai l'impression que le cinéma japonais de studio, il s'est beaucoup engouffré dans l'exploration à l'extrême des genres. Et par exemple, là-dedans, si on peut peut-être conclure sur la marque du tueur, à moins que tu aies des choses qui t'es plus dans le film, que tu veux rajouter peut-être, Juliette ?
J'ai évoqué déjà le catalogage des méthodes d'assassinat, donc ça va.
C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces méthodes d'assassinat. Dans l'actualité, en parlant de Nanikatsu, la Cinémathèque française vient de publier le programme de l'été, donc de mai et juin prochain. Et il se trouve qu'il y aura un cycle consacré aux films érotiques de Nanikatsu, donc un peu d'exploitation, à partir de la fin des années 60 et des années 70, si je ne me trompe pas. Donc typiquement, ils vont encore plus loin du coup dans l'exploration des thèmes que Suzuki aborde déjà dans ses films des années 60, quoi. Donc j'ai très hâte de voir ces films-là en juin prochain, et n'hésitez pas à y aller aussi.
Oui, on vous y encourage. Et donc, je crois qu'il est temps de passer à la fameuse chronique de David, après avoir donc traité de ces deux films.
La chronique de David.
Et oui, c'est l'heure de ma chronique et je vous parlais de braquage. En fait, demain, vers 19h, je sortirai heureux de la fondation Jérôme Sédou-Pathé, institution déjà souvent mentionnée dans notre émission. Pour rappel, la fondation elle remplit depuis 2014 le dernier trou cinéphile qu'il manquait dans le paysage des salles parisiennes en proposant une programmation quasi exclusivement de films muets, dans des conditions exceptionnelles, souvent en pellicule et quasi toujours avec un accompagnement musical live. Et je parlais de braquage, en fait je vais pas aller braquer cette fondation. Ce samedi, il y a une programmation assez spéciale puisque l'association Braquage prend les manettes du créneau de 17h avec une séance intitulée « À l'intérieur comme à l'extérieur, tout n'est que poésie ».
Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Braquage, du coup, qui n'est donc pas le braquage que tu vas faire, mais l'association?
Oui, en allant sur le site de cette association, on peut lire que Braquage est une association parisienne qui a été créée il y a plus de 20 ans et elle œuvre autour du cinéma expérimental. Donc elle organise des projections, des ateliers, des rencontres et des expositions afin de découvrir des formes de cinéma singulières qui sont souvent artisanales et proches des arts plastiques et du cinéma expérimental. L'association est très attachée à la pellicule et aux techniques analogiques. Et elle se déplace dans des lieux très variés pour diffuser ses pratiques mêlant films expérimentaux, documentaires et plein d'autres pratiques comme l'animation, le cinéma très ancien, etc. Habituellement, les projections de courts, longs et les performances de l'association, elles sont présentées à l'espace En Cours, près de la place de la Réunion dans le 20e. Mais ce samedi, programmation exceptionnelle à la Fondation Pathé donc, où pas moins de 10 courts-métrages muets de diverses époques et en divers formats seront présentés. Le programme, il est éclectique et on y voit figurer des noms célèbres du cinéma expérimental de la deuxième moitié du 20e siècle, comme Stan Brakhage, avec un titre à dormir debout, Delicacies of Molten Horror Synapse, ou un film de Peter Tcharkovsky. Mais il y a aussi des films issus du fonds Pathé, Gaumont Pathé, composés de milliers de courts-métrages des années 1900, tels que ceux que l'on voit de Mon Sixième, de Ferdinand Zecca, qui était l'un des plus célèbres représentants de réalisateurs de films à cette époque-là.
Et donc, quelle est la ligne directrice de cette programmation?
Bon, je vous ai dit, le titre de la séance est « À l'intérieur comme à l'extérieur, tout n'est que poésie ». Donc c'est le nom du programme proposé par l'association, c'est très mystérieux, n'est-ce pas? En fait, le programme il vient accompagner la rétrospective dont le nom est un peu plus clair, à savoir les mystères de l'âme, la psychanalyse dans le cinéma muet. Donc on va probablement voir des films qui parlent, qui montrent les choses cachées, qui montrent la psyché, le cerveau, les pulsions, etc. Je vais vous lire même, je vais vous citer un petit peu ce que nous propose l'association Braquage. Ce programme nous invite à glisser au cœur des modifications de représentation du monde via les effets poétiques du cinéma, troublant notre âme et inspectant ainsi notre aptitude à éclaircir notre lien au monde. À vous de me dire si c'était clair, vivement samedi en tout cas. Si vous ratez la séance de demain, pas de panique, l'association propose régulièrement des séances, quasi exclusivement en pellicule, et la prochaine a lieu le 20 mai, à l'espace En Cours dans le 20e arrondissement, pour Côte 465, du si grand réalisateur américain Anthony Mann. Le film est proposé en 16 mm, donc la pellicule 16 mm, un format semi-professionnel qui permettait aux copies un transport plus simple et une projection dans des conditions plus sommaires, voire même domestiques. Et désormais, il est temps pour la virgule.
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi, tous les deux mois, à 19h, sur le 93.9 FM.
Merci beaucoup David pour cette super chronique. Pour finir l'émission, revenons rapidement à Seijun Suzuki avec notre traditionnel tour de table. Quel est le film de notre cher Seijun qui t'a le plus marqué, David?
Je pense que c'est le dernier que j'ai vu, il s'appelle La barrière de chair, donc toujours les années 60, le cinémascope, la couleur. C'est l'histoire de quatre jeunes femmes dans le Tokyo de l'immédiat après-guerre. Elles deviennent prostituées et c'est un film très coloré, comme les autres films de Suzuki, comme on l'a dit. À chacune est associée une couleur, un peu comme on pourrait presque dire dans Scooby-Doo. Et elles vivent du coup voilà dans les ruines, dans les sous-sols, dans les souterrains. Et le film est comme une radiographie du coup du Tokyo, même pas reconstruit, toujours en ruine, où les gens vivent de trafic, de prostitution et aussi du coup de leurs interactions économiques avec l'environnement. avec les Américains qui sont encore dans le pays et qui l'occupent. Et il se trouve par exemple que ces prostituées, elles ont un très fort caractère, donc elles refusent d'avoir des clients américains par exemple, et puis même entre elles, si jamais elles ont une règle commune entre elles, c'est de ne pas tomber amoureuse. Et donc si l'une d'entre elles tombe amoureuse, elle sera châtiée et durement punie par ses camarades de métier. Et donc on a droit à des scènes assez horribles de torture et de violence de ces femmes-là sur certaines de leurs congénères quand l'une a le malheur de tomber amoureuse d'un homme, quoi. Et en fait, le film m'a beaucoup intéressé, comme je vous disais, pour la radiographie de Tokyo dans l'immédiate après-guerre. Et je le mets en parallèle avec un autre film restauré qui est sorti récemment, qui passe encore au shampoo, qui s'appelle Ginza Cosmetics de Mikio Naruse. Donc c'est un film qui est fait à peine 10 ans, 13 ans plus tôt, en 1951. Et c'est... Et il s'agit pareil de femmes dans le Tokyo toujours en ruine ou à peine reconstruit dans le quartier de Ginza. Et ce sont aussi des entraîneuses, des femmes de cabaret, des chanteuses. Mais alors pour le coup, le traitement du sujet par Naruse n'est pas du tout le même que celui de Suzuki. 13 ans plus tard, on voit que la société japonaise est beaucoup moins conservatrice en 13 ans. J'ai beaucoup aimé le film de Naruse, évidemment. Mais j'aime beaucoup mettre en parallèle ces deux extrêmes-là du cinéma japonais. Donc l'un conservateur et... modéré aussi et mesuré dans la, comment il montre le quotidien de ces femmes-là, et l'autre outrancier coloré comme Suzuki, quoi.
Ça me fait penser encore à un autre film qui était donc ressorti il y a 3 ans, si je ne m'abuse, et qui est disponible sur la plateforme Arte.tv, qui s'appelle La Nuit des Femmes de Kinuyo Tanaka, donc qui était une grande actrice du cinéma japonais des années 30. Et pendant des décennies et des décennies, qui a réalisé 6 films. Et donc, La Nuit des Femmes, c'est un film de 61 et qui parle en fait de la loi sur la prostitution qui a été promulguée en 1956, où il y avait des centres de réhabilitation des prostituées qui avaient été mis en place au Japon. Donc, on est encore dans le Japon de la reconstruction, même si, bon, ça fait déjà 10 ans, mais on est quand même dans la reconstruction. Et là, du coup, on suit des anciennes prostituées qui sont dans ce centre de réhabilitation et qui... ont du mal à se refaire une vie, en fait, après ça. Et c'est un traitement aussi assez modéré, mais du coup, on est à l'étape d'après dans l'histoire du Japon de ces années d'après-guerre.
Mais super intéressant. Et Juliette, du coup, sur Suzuki, est-ce qu'il y a un film que toi, tu as préféré ?
Ce ne sera pas très original, mais La vie d'un tatoué reste quand même celui que j'ai préféré, mais... Bon, mention spéciale aussi au Vagabond de Tokyo. Moi, c'était celui que je connaissais... d'emblée quand j'ai vu que des films de Suzuki ressortaient, donc j'ai quand même beaucoup aimé. Et c'est vrai que celui-ci, c'est aussi une étape assez importante dans la stylisation, mais pareil, je l'aime aussi comme j'aime La vie d'un tatoué, parce que Suzuki s'en tient quand même à une narration qu'on arrive à suivre, et Le Vagabond de Tokyo est l'étape, disons, suivante dans le côté très pop, avec là, même des décors qui semblent, qui font vraiment très carton-pâte. Il y a notamment cette espèce de cabaret qui est tout blanc, avec juste un piano qui trône au milieu. Enfin, les costumes des personnages, rien que pour les jeux de couleurs, je le recommande chaudement aussi.
Bah, tu m'as convaincue, Juliette.
Vous le savez très bien, il n'y a de bonne compagnie qui ne se quitte, et il est déjà temps de vous parler de notre prochaine émission. Ce sera une émission spéciale qui portera sur le festival
Il Cinema Ritrovato
de Bologne, où nous nous rendons du 20 au 27 juin, donc pendant toute la durée. Nous en avions déjà parlé l'an dernier et le voici de retour. Il nous tarde d'aller voir plein de films de patrimoine uniquement, puisque c'est le principe du festival de Bologne, et donc de profiter aussi de cette édition XL à l'occasion de la 40e édition du festival. Nous vous remercions d'avoir écouté Sine Qua Non sur Radio Campus Paris 93.9 FM. C'était Théophile à la réalisation, David et moi-même pour le reste. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ainsi que les précédentes sur le site internet www.radiocampusparis.org ainsi que sur vos plateformes de streaming préférées. Tout de suite et enfin... la musique de fin choisie par David.
Oui, nous allons écouter Les Gentils, les Méchants, chanté par Michel Fugain et le Big Bazar. Drôle de lien avec le cinéma de Seijun Suzuki, mais en fait, je pense que souffle sur le cinéma de Suzuki, comme sur la musique de Michel Fugain, le même souffle libertaire, hédoniste et joyeux de la contre-culture des années 60 et 70.
Merci David, courez en salle et bonne écoute.
Qui c'est qui est très gentil ?
Les Gentils.
méchants,
les méchants.
Qui a tous les premiers prix,
les gentils.
Qui roupille au dernier rang,
les méchants.
Qui fait des économies,
les gentils.
Et qui gaspille son argent,
les méchants.
C'est qui se retrouve devant
les méchants.
C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie,
les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant,
les méchants.
C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Ils font l'amour le samedi, ça n'importe quand, les méchants.